Marceau et Audrey Pinchot.
10h26 minutes. Oh, que j'ai l'impression que le prochain sujet va faire jaser déjà des questions pour notre invité. On va aller voir juste avant la météo, les amis, avant de débuter, parce que je vois que dans certains secteurs, surtout dans, je vous dirais, dans le centre du Québec, il semble y avoir beaucoup de neige. On parlait entre autres sur la 55, là, il y a une sortie de route.
Ouais.
C'est un camion là, qui a fait une mise en portefeuille, puis il semble avoir une tempête de neige dans ce secteur-là. Environnement Canada ne nous mentionne pas une tempête de neige. Par contre, elle nous mentionne aujourd'hui pour la grande région de Québec un 5 cm par endroit, des températures stables à près de 0 degré. Ce soir, cette nuit, c'est de la neige qui devrait cesser après minuit, entre 2 et 4 cm pour ce soir et cette nuit. Demain, mercredi, généralement ensoleillé avec un maximum de plus 1. Jeudi, ensoleillé maximum de 6. Et vendredi, ce sera nuageux avec un maximum de 6 degrés. Elle en est à sa troisième comparution devant Audrey et oui. Marceau. C'est le docteur Maude Bouchard qui est neuropsychologue, qui est spécialiste du sommeil. À chaque fois qu'on dit, on va parler avec docteur Maude Bouchard, on commence déjà à avoir des questions d'avance. Fait que je pense que c'est bon signe. Les gens semblent l'apprécier beaucoup. Bonjour, docteur Bouchard.
Bonjour.
Merci de vous être rendu disponible pour nous ce matin. On a encore une multitude de questions. Qu'est-ce qui fait en sorte que le sommeil, il y a autant de problématiques sur le sommeil? C'est-tu parce que de un, tout le monde dort?
Ben, j'ai l'impression que c'est ça que j'allais répondre. Hein? Tout le monde dort, donc ça fait en sorte que s'il y a des problèmes, on peut en avoir.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a 50% des gens, des êtres humains sur Terre qui ont des problèmes de sommeil?
Ben, si on regarde les études, ça va varier un petit peu, là, mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent avoir des problèmes de sommeil, puis des troubles de sommeil, il en existe tout plein. Ceux qu'on connaît le plus, c'est l'insomnie, hein, mm-hmm. Avoir de la difficulté à dormir quand on veut dormir. Il y en a qui connaissent l'apnée du sommeil aussi. Mais il y en a plein d'autres qui sont là aussi. Puis ça fait qu'il y a plein de gens qui souffrent de troubles de sommeil.
Est-ce que il y a des sommeils qui sont plus récupérateurs que d'autres? Exemple, moi, je suis un bon dormeur. Je vous ai dit mon truc la dernière fois, docteur Bouchard. Si vous l'avez conseillé à des patients, je charge 10%. Mais moi, c'est la régularité. Je me couche toujours à la même heure et je me lève toujours à la même heure. Des fois, je peux tricher la fin de semaine en faisant un petit somme là, de 20 minutes, mais sinon, je me couche toujours à la même heure, je me lève à la même heure. Je peux te dire que dans une relation de couple, c'est plate en maudit un gars comme moi, mais ça fait en sorte que je n'ai plus de problème de sommeil. Je ne m'endors plus pendant le jour.
Mais c'est-tu prouvé, ça, docteur? Parce que, tu sais, on entend souvent parler d'une routine de sommeil, mais tu sais, c'est-tu une vraie affaire, ça, que de se lever puis se coucher toujours à la même heure, ça peut tout régler?
Ben oui. C'est malheureux parce que c'est vrai que c'est un peu plate, hein? Sauf que effectivement, parce qu'on a des rythmes dans notre corps, des rythmes hormonaux, notre température corporelle fluctue aussi sur des rythmes de 24 heures. Et donc, quand on se couche toujours à la même heure et qu'on se lève toujours à la même heure, on vient synchroniser ces rythmes-là, on vient les aider finalement à faire tout le temps la même affaire, c'est plus facile et ça aide le sommeil. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on va faire à des gens qui sont en thérapie de sommeil, qui ont des problèmes d'insomnie et qui viennent suivre vraiment un programme pour mieux dormir, c'est un des outils.
Puis c'est quoi le truc, mettons, pour savoir, toi, comme humain, là, parce qu'on est tous différents, là, pour savoir à quelle heure tu devrais te coucher puis à quelle heure tu devrais te lever idéalement pour avoir le bon nombre d'heures de sommeil pour toi? C'est-tu de l'essai-erreur ou tu te laisses aller puis tu vois à quelle heure tu te lèves?
Ça, c'est difficile un peu, hein, parce qu'il y a nos besoins qu'on a, donc c'est-à-dire il y a des gens qui ont besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, puis c'est pas le même d'une personne à l'autre, mais il y a aussi ce qui se passe dans notre vie, hein. Est-ce qu'on a une jeune famille puis on doit se lever super tôt le matin, même si nous autres on aimerait bien se lever à 8 heures, est-ce qu'on travaille à la radio puis on doit se lever super tôt le matin, donc c'est un mélange des deux, on essaie le plus possible de se rapprocher de notre besoin de sommeil, de notre nombre d'heures de besoin de sommeil, de notre timing aussi, c'est-à-dire qu'on a tous un chronotype, ça veut dire qu'il y a des gens qui naturellement se coucherait tard, se lèverait tard, puis il y en a d'autres que c'est le contraire. Puis encore une fois, si on peut se rapprocher de notre tendance naturelle, c'est bien, mais c'est pas toujours possible dans notre vie.
Ouais, puis les patrons comprennent pas tout le temps, là, quand tu es supposé commencer à 8 heures, mais toi, ton cycle à toi,
c'est
à 10 heures, faut que tu te lèves.
Les patrons,
non, ils sont pas compréhensifs. On sait pas pourquoi. Est-ce que, s'il y a des auditeurs qui ont des questions, parce qu'il y a déjà quelques questions qui sont rentrées, là, mais je sais qu'avec ce que je vais dire, ça se peut qu'il y ait un peu plus de questions par rapport à ça. 418-971-1021 par texto. Est-ce que les travailleurs de nuit, est-ce que les camionneurs, ces gens-là diminuent leurs années de vie en jouant un peu avec leur sommeil?
Oh là là. Oui. Dans... J'aime pas ça répondre ça hein, parce que mon but, c'est pas de stresser les gens. Puis aussi, on s'entend, là, des horaires atypiques, c'est pas près de partir. Cela, là, on en a besoin, des gens qui travaillent de soir, de nuit. Il y a des gens qui ont des horaires rotatifs, mais ça affecte leur sommeil parce qu'on vient justement jouer avec les rythmes circadiens. On est en train de dire au cerveau, quand c'est le temps de dormir, ben non, moi, je travaille. Puis on fait le contraire aussi pendant le jour. Des fois, on dort. Donc, si on regarde les études, ça peut amener des problèmes de santé physique, des problèmes de santé psychologique, et c'est une population qui a des troubles de sommeil là, deux fois plus que la population générale. En fait.
Est-ce que la clarté et la noirceur ont un impact sur notre sommeil? Exemple, un travailleur de nuit, nécessairement, quand lui, il travaille, il fait toujours noir, puis quand il dort, il fait toujours clair. Il voit pas vraiment de lumière du jour. Ça a-t-il un impact sur sa vie?
Ça a un gros impact parce que, tu sais, je vous parle des rythmes depuis tantôt, là, sur 24 heures, on appelle ça des rythmes circadiens, puis on a des structures dans notre cerveau qui nous aident à réguler ces rythmes-là. Sauf que ça se synchronise avec des indices extérieurs aussi, puis la lumière, là, c'est le plus gros indice. C'est-à-dire que quand il fait clair, quand on est exposé à la lumière du jour, ça donne un signal au cerveau comme quoi c'est le temps de sécréter des hormones pour être réveillé. Donc, le cortisol va être élevé, il n'y aura pas de mélatonine qui va être sécrétée. Et le soir, quand la lumière diminue, bien là, tranquillement, ça donne le signal au cerveau que c'est le temps de sécréter des hormones de sommeil. Donc, c'est vraiment un cycle qu'on vit jour après jour. Et pour les travailleurs atypiques, bien, on va à l'encontre de ça. C'est vrai aussi hein, pour les gens qui restent au pôle, par exemple, où est-ce qu'ils ont des mois et des mois de clarté, par exemple, pendant l'été, puis des mois de noirceur pendant l'hiver. Bref, ça affecte ce genre de choses-là, notre cerveau, nos rythmes circadiens, puis ça peut affecter notre sommeil aussi.
Je sais qu'il n'y a pas de formule magique, là, mais y a-t-il une routine idéale? Mettons qu'on se fait un petit top 3, top 5 de trucs, là, on a parlé des heures, bon, fixes, mais y a-t-il une routine idéale qu'on peut peut-être, pour les auditeurs qui nous écoutent, commencer à mettre en place si on se rend compte que notre sommeil est tout foqué? Parce qu'on dirait que quand tu touches le fond du baril, des fois, là, puis qu'il n'y a rien qui va, tu ne sais pas par où commencer.
C'est tellement vrai, puis ça me fait penser juste parce qu'on vient de parler en plus de la population des travailleurs de nuit, des gens qui ont des horaires atypiques. Pour faire un peu le ménage là, dans tout ça, des programmes comportementaux pour le sommeil, comme de la thérapie cognitive comportementale, de l'insomnie, ça peut être un super bon outil. Parce que justement, ça va prendre un peu toutes les choses qu'on lit, toutes les choses qu'on pense, qu'on se fait dire par rapport au sommeil, ça fait le ménage, ça
C'est
donne une
quoi
structure.
ça? C'est avec
C'est des
quelqu'un
programmes.
ou...
Oui, c'est des programmes qui sont courts, puis souvent ça va être donné par des psychologues, des psychothérapeutes, à la clinique, allez où est-ce que je travaille, c'est des programmes qu'on offre aussi, autant chez les gens qui ont des horaires normaux que chez les gens qui ont des horaires atypiques puis ont des problèmes de sommeil. Mais l'idée, c'est que c'est des programmes courts sur quelques semaines où on va changer, on va en fait aider les causes sous-jacentes à l'insomnie. On va essayer de changer des comportements, changer aussi nos pensées par rapport au sommeil. Parce que les gens qui ont des problèmes de sommeil, là, c'est pas le fun d'aller se coucher le soir. Des
Ils
fois, ils ont
anticipent.
envie de s'en aller dans leur chambre,
Ben
dans leur
oui.
lit. Il y a du stress, il y a de l'anticipation. Puis des fois, c'est là depuis des dizaines d'années. Mais c'est des programmes comme ça qui peuvent vraiment venir faire le ménage. Donc ça, j'ai envie de le mentionner parce qu'on parle beaucoup des conséquences, hein, du mauvais sommeil. Puis des fois, ça nous stresse encore plus. Puis on se dit, mais là, c'est quoi les solutions d'abord? Ça existe. Parlez-en à votre médecin, parlez-en et essayez de voir si c'est quelque chose qui peut être bon pour vous. Puis pour revenir à ta question sur la routine. Quand on fait un peu le ménage de notre routine, des choses que je vais dire, c'est premièrement, est-ce qu'on peut mettre les choses plus stressantes au début de la soirée, puis diminuer après ça en intensité vers la fin de la soirée? Hein, des fois, on garde les grosses conversations avec le conjoint, la conjointe sur l'oreiller juste avant d'aller se coucher, puis là, on a le cœur qui débat, on est frustré. Donc, des fois, d'essayer de déplacer ces choses-là quand c'est possible, ça aide. Si on garde notre vaisselle ou notre ménage ou toutes les choses qu'on n'aime pas faire pour juste avant d'aller se coucher, ça aussi, ça peut avoir un impact. Fait que des fois, il y a un moyen de déplacer les choses qu'on a à faire juste pour que ça parte du plus stressant au moins stressant, du plus intense au moins intense, puis de se garder un petit peu de temps à la fin, pas d'écran, juste relax avec les lumières tamisées pour préparer finalement notre organisme au sommeil.
Docteur Maude Bouchard, neuropsychologue, spécialiste du sommeil. Bon, là, je ne veux pas me vanter, mais je joue au hockey professionnel. Ça s'appelle la Ligue du Vieux-Poil. On espère un jour faire compétition à la Ligue nationale de hockey. Mais la Ligue du Vieux-Poil, parfois, on a des heures de glace qui sont particulières, c'est-à-dire à 22h le soir, 23h le soir. Puis je vais vous dire honnêtement, Doc, que quand j'arrive à la maison, la dernière affaire que je veux, après avoir travaillé extrêmement fort pendant 60 minutes sur la glace, la dernière affaire que je veux, c'est me coucher parce que mon cerveau allumé, est encore hein? allumé comme un rond de poêle. Y a-tu des trucs, mis à part la Coors Light, qu'on peut utiliser pour justement se calmer, s'endormir un peu plus rapidement? Parce que franchement, quand on arrive à la maison à minuit après une game de hockey, des fois, on n'est pas couché avant 2-3 heures du matin, malheureusement.
Ben c'est clair. Puis d'ailleurs, c'est tellement, tellement une bonne question parce que l'activité physique, là, ça aide notre sommeil. Le fait de bouger pendant la journée, ça aide la qualité de notre sommeil. Donc, un des conseils que souvent je vais donner, c'est de bouger plus. C'est pas obligé d'être au gym, c'est pas obligé d'être si intense que ça, mais juste marcher, sortir dehors, bouger, faire du gros ménage, à la limite, ça peut compter aussi. Si on est assis toute la journée, ça se peut que notre sommeil soit de moins bonne qualité. Fait que, bref, c'est super important l'activité physique et effectivement, il y a plein de gens qui se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas le choix de faire ça en soirée parce que justement, c'est la glace et la piscine qui est disponible à cette heure-là et ça réveille de faire l'activité physique. Donc, si on veut se réveiller, c'est un bon outil, mais si on veut s'endormir puis aller se coucher, de bouger, ça risque de nous tenir réveillés. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on donne aux gens des fois qui sont somnolents un petit peu au volant, de se stationner, de courir un petit peu, de faire pomper la patate pour se réveiller puis être capable de conduire.
C'est pas mauvais, ça.
Ouais. Puis donc, il y a deux aspects à ça. La première, c'est des fois, il faut changer notre horaire de sommeil un petit peu. C'est-à-dire que ces soirs-là, quand on s'entraîne, on doit peut-être se coucher un petit peu plus tard parce que ça ne nous sert à rien d'aller dans notre lit, d'aller se coucher puis d'être super réveillé et de là, de passer 30 minutes, une heure et demie réveillé dans son lit à regarder l'heure puis à dire, voyons comment ça se fait que je ne m'endors pas. C'est ce genre de comportement-là qui peuvent des fois augmenter la présence d'insomnie. Donc, des fois, ça a l'air contre-intuitif, mais je vais dire aux patients, aux patientes de se coucher plus tard ces soirées-là et de se lever quand même à la même heure le lendemain matin. L'autre chose, c'est il y a des gens qui vont dire d'essayer de ne pas faire d'activité physique, tu sais, un 2 à 3 heures avant de se coucher, sauf que des fois, ce n'est pas réaliste. Des fois, c'est le seul moment qu'on a pour en faire et donc, c'est mieux d'adapter un petit peu notre horaire de sommeil pour être capable de s'endormir malgré tout.
Là, les conseils, on a un peu jasé, mais l'hypnose, est-ce que c'est quelque chose qui est prouvé, qui peut fonctionner pour aider les problèmes de sommeil? C'est quelque chose qu'on entend souvent, là?
Je dirais que la première chose là, qu'on devrait faire, c'est vraiment la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie. C'est d'ailleurs, là, à travers le monde, c'est quelque chose qui est étudié. Les experts en sommeil, les chercheurs, et ils ont étudié ce type de programme-là depuis des années. Et c'est recommandé comme étant la première chose qu'on devrait faire. Le problème, des fois, c'est l'accessibilité. Hein? Des fois, les médicaments sont plus accessibles et donc on commence par ça. Puis moi, je trouve ça bien triste quand je vois des patients arriver en clinique, puis ça fait 20 ans qu'ils ont des problèmes de sommeil. Ils ont tout essayé. Puis là, la dernière affaire qu'ils essaient, c'est un programme de sommeil. Ça devrait être le contraire. Donc, ça va aider la plupart des gens, des programmes comme ça, parce qu'on parle d'hygiène de sommeil, mais c'est pas juste l'hygiène de sommeil. On parle aussi on change vraiment des comportements, on met des choses en place et on bâtit là-dessus pour créer un momentum, puis vraiment venir aider notre sommeil.
Sommeil et santé mentale, on est rendu là. Est-ce que le manque de sommeil peut faire en sorte que notre santé mentale peut être affectée ou encore le contraire, la santé mentale est défectueuse ces temps-ci? Est-ce que notre sommeil peut être affecté? Puis comment on peut se sortir de ce cycle-là?
Bien, certainement. Hein? Puis je dis toujours que c'est une relation bidirectionnelle. Donc, notre sommeil, notre qualité de sommeil ou notre manque de sommeil, la présence d'insomnie, ça peut commencer par ça. Puis ça peut faire en sorte qu'on développe de l'anxiété, de la dépression, qu'on parte en épuisement professionnel. Donc, c'est vraiment un facteur de risque pour développer ces choses-là. Mais le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire que si on vit de l'anxiété, si on est en dépression, ça se peut qu'un de nos symptômes, ce soit de l'insomnie ou même des fois de l'hypersomnie, on dort trop, par exemple. Donc, le sommeil, il est intrinsèquement lié à notre santé physique, mais aussi à notre santé mentale. Et je dis toujours qu'on doit adresser les deux. Donc, si on traite l'anxiété, si on a des solutions pour justement les symptômes dépressifs, les symptômes anxieux, on veut la même chose pour le sommeil parce que si notre sommeil ne va pas mieux, ça nous met plus à risque pour redévelopper ce type de problème-là. Donc, c'est très, très collé, les deux. Et des fois, le sommeil, bien, c'est une manière un peu plus directe, un peu plus facile de même quand on le traite, d'avoir des impacts positifs sur ces symptômes-là,
On dirait que j'en
ingérables.
doute pas, là. Moi, honnêtement, là, une semaine où je dors mal, là, je suis insupportable.
Ah, ça, c'est vrai, ça.
Pour les gens autour de moi, mais c'est vrai, c'est épouvantable. Je me couche un peu plus tard, là, le lendemain, là, je sais pas, irritable. Il y a rien, mais rien qui fonctionne comme si c'était vraiment la base. Puis, en fait, ce l'est, tu vas me dire, Maude, là. Mais pour plusieurs personnes, ça, on le réalise pas avant plusieurs années. Mais c'est rendu que des fois, je fais mon horaire en fonction de ça. OK, on va aller souper, mais pas dépasser 9 heures. Parce que je sais que je vais arriver chez nous à 10 heures. Puis là, moi, quand je me couche, dépasser 10 heures, ça va pas prendre tout, là.
Bien, c'est pas mauvais de mettre ses limites par rapport à ça. Puis je pense que les gens le découvrent. Puis en vieillissant aussi, notre sommeil, il change. Hein? Puis ça, c'est normal. Puis notre processus de compensation sur la privation de sommeil est moins efficace. Fait que, tu sais, quand on est privé de sommeil à 20 ans et que notre cerveau puis notre corps il est efficace pour un peu compenser pour ça, puis là, plus on vieillit, moins on est efficace à le faire. Il le fait encore, mais moins. Et donc, on réalise que, OK, je peux plus faire nécessairement les choses que je faisais
C'est
à cet
tellement
âge-là.
vrai.
Puis là, je dois mettre des limites, des choses en place pour venir le protéger, ce sommeil-là.
C'est tellement triste. Je pouvais dormir 2 heures, moi, là, là.
Ouais.
Aller travailler, tu comprends, il n'y avait pas de problème. Puis maintenant, là, mon doux Seigneur, si j'ai pas mon 8 heures, là.
Mais ça peut
Les
aller
beaux
plus.
souvenirs.
Ça peut aller plus loin que ça. À un moment donné, je suis parti aux États-Unis à moto pendant 3 semaines en ligne, puis je dormais très peu. Je faisais beaucoup de moto, je me promenais beaucoup, puis je dormais très peu. Puis à un moment donné, je me souviens que j'étais sur l'autoroute, puis j'étais enclin à des hallucinations. Pas des hallucinations visuelles, mais dans ma tête, et je pensais à des choses, puis ça allait tout le temps hyper loin, là.
Eh mon doux, toi!
C'est paniquant quand tu vis ça. Je l'ai vécu peut-être 2, 3 fois lors de voyages où je faisais des privations
dans
de
le sens
sommeil.
Que tu tombais tellement dans ta tête, t'étais dans l'une, t'étais un peu dans ton subconscient. Là.
Puis j'étais parti. Tu sais, mettons exemple, je sais pas, moi, quand je vais revenir à la maison dans 3 semaines, ben je vais être content de voir ma blonde. Mais là, s'il y a quelqu'un qui est là à ma place, qui a pris ma place,
oh, bah, bah,
ben là, je vais être fâché. Puis là, qu'est-ce que je vais dire à ce gars-là?
Mais t'étais anxieux, c'est ça de l'anxiété, Yann.
Oui, mais c'est parce que j'avais une privation de sommeil, mais j'hallucinais des affaires qu'il n'existait pas.
C'est ce que Maud disait. Oui, oui. Mais tu te crées des scénarios. Bienvenue dans le cerveau d'une fille en passant.
Mais ça, je.
Mais moi, j'ai envie de faire du pouce sur les hallucinations parce que là, tu touches quelque chose, puis il y a plein de gens qui vivent des phénomènes comme ça et qui ne savent pas c'est quoi et qui pensent qu'ils sont fous.
Débile, oui.
C'est pas le cas. En fait, vraiment, là, quand on est en privation de sommeil, une des manières du cerveau pour compenser, c'est de créer du sommeil plus profond. En fait, et l'état entre le sommeil et l'éveil, donc pendant l'endormissement, il peut y avoir des phénomènes du type hallucination visuelle, hallucination auditive. Ça vient des fois de pair avec la paralysie de sommeil. Si on en a parlé à un moment donné dans une
Ouais.
émission de la paralysie de sommeil, ben il n'y a pas juste ça, il y a aussi des hallucinations. Donc au début de la nuit, dans l'endormissement, ou vers la fin de la nuit, ça va être des gens sont dans leur lit, essayent de dormir, tout ça, puis ils voient quelque chose dans leur chambre. Fait que c'est vraiment un genre d'entre-deux entre le sommeil et l'éveil, mais c'est un phénomène qui est rapporté, puis que sans avoir nécessairement de gros troubles de sommeil ou de problèmes de santé mentale, ça peut exister, puis on peut le vivre, et c'est pire en privation
Ouais,
de sommeil.
puis j'en avais parlé de ça, la mère de mes
Ben oui.
enfants. On habitait au-dessus d'un salon funéraire, docteur Bouchard, et elle ne tripait pas nécessairement qu'on habite à ce moment-là, quand on a 20 ans, au-dessus d'un salon funéraire. Et le soir, elle dormait, puis je vous dirais que vers 2-3 heures du matin, elle se levait bien droite sur le lit, puis là, elle disait « Yannick, est-ce que tu vois, il y a quelque chose dans le fond de la pièce? » Et là, moi, je crois pas qu'il y a d'autres choses, tu comprends? Fait que là, je me lève les yeux, je dis, mais il y a rien. Elle dit « Oui, regarde, il y a quelque chose. » Ah, ça vient de passer au travers de la porte. Hey, moi, là, je vois rien, là. Je suis en panique. Là. Puis elle se rendort en 1 milliseconde.
Je l'aurais quitté.
Puis moi, je me dis, attends un peu, là, y a-tu des fantômes chez nous, là? Puis je
ça.
Le sais pas. Jusqu'à temps que je me rende compte, Doc, qu'à un moment donné, notre chien qu'on avait à l'époque était chez ma belle-mère. Puis à un moment donné, elle m'a dit, oui, mais regarde, Hurley est en train de monter dans les draps. Je dis, OK, c'est beau, tu peux te recoucher, t'es complètement folle.
Ouais, c'était dans sa tête, elle était vraiment fatiguée.
C'était dans sa tête, effectivement.
Mais
mais
ça peut être du somnambulisme également.
Aussi,
hein, parce qu'en
ouais.
début de nuit, ça peut être des épisodes de somnambulisme. Puis le somnambulisme, ça arrive dans le sommeil profond, donc premier tiers de la nuit. Et ça peut aussi être augmenté par la privation de sommeil ou par le stress.
Hey, c'est weird
Non,
sur
c'est
un
weird.
temps, là. Mais le pire, c'est que tu viens quand même de régler une couple d'affaires dans ma tête parce que tu te disais on peut se sentir débile, là. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, des fois, je me réveillais en plein milieu de la nuit puis je voyais comme des gens d'ombre noire. je trouvais ça vraiment tannant. Puis tu sais, là, on dirait que tu fais le saut parce qu'après ça, tu te réveilles bien comme du monde parce que tu te demandes s'il n'y a pas quelque chose dans ta chambre. Ouais. Fait que ce serait vraiment juste le fait d'être en manque de sommeil qui pourrait te jouer dans la tête.
Ça se peut. Ça se peut que ce soit ça. Mais moi, je suis là pour régler des problèmes, fait que tant mieux.
Non, ouais, ouais, j'adore ça. Je veux
la mélatonine. Oublie pas la mélatonine.
Les pilules?
Ouais.
Oui, ben ça. Est-ce que tu bon, ça?
Ben là, la mélatonine, grosse question. La médication pour dormir, c'est comme tout un sujet en soi. Je dirais que la médication pour dormir, là, c'est un outil parmi tant d'autres. C'est-à-dire que ça devrait être utilisé à court terme,
ouais,
ou une fois de temps en temps. Ce qui est malheureux, hein, si on revient au problème d'accessibilité pour traiter les problèmes de sommeil, les médicaments, souvent, c'est le plus accessible, puis les gens manquent de solutions. Donc, ça se ramasse qu'on en prend sur du long terme à tous les jours, puis là, ça devient de moins en moins efficace, puis on augmente la dose. Il y a tout un cercle vicieux autour de la prise de médication. Donc, je reviens, je suis bien tannante avec ma thérapie du sommeil, mais je pense quand même qu'on devrait essayer de commencer par quelque chose comme ça, et que la médication, ça soit un outil parmi tant d'autres si on en a besoin. Et la mélatonine, bien là, c'est un peu différent parce que la mélatonine, c'est un produit naturel, hein, qu'on peut se procurer en pharmacie. Et ce n'est pas comme un somnifère. Ça ne va pas nécessairement induire du sommeil. Ça donne un signal au cerveau parce qu'à la base, hein, de la mélatonine, on en sécrète naturellement, surtout si on baisse nos lumières chez nous au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Puis ça, c'est facile à faire. Fait que faites-le. Mais si on prend des suppléments, déjà, vérifier avec votre médecin, votre pharmacien, votre pharmacienne que ça ne peut pas interagir avec d'autres types de médicaments que vous prenez. Prenez la plus petite dose parce que souvent, les grosses doses, ça fait juste donner plus d'effets secondaires et les petites doses, c'est déjà bien suffisant pour ce que le cerveau a besoin. Et c'est un outil souvent plus pour justement les gens qui ont des horaires atypiques, qui dorment de jour, qui ne sécrètent pas de mélatonine ou qui doivent se coucher très tôt puis qui n'ont pas nécessairement cette somnolence-là à 8 heures parce qu'ils se lèvent très tôt.
Il y a une question d'auditeur qui est entrée par rapport aux suppléments, puis je ne sais pas si c'est quelque chose que tu peux confirmer ou infirmer, mais la personne dit « Audrey, il y a plusieurs de mes amis qui prennent du magnésium et elles ont vraiment vu une différence sur leur sommeil. C'est-tu quelque chose qui est prouvé? »
Dans la littérature, il semble qu'il y a des bons résultats, effectivement, au niveau du magnésium. Donc, si ça aide, puis souvent, ce que je vais dire pour ces choses-là, c'est si ça aide, que ça n'a pas vraiment d'effet néfaste, pas d'effet secondaire, puis que ça vous fait du bien, bien, allez-y à ce moment-là.
Why not coconut?
Docteur Maude Bouchard, neuropsychologue spécialiste du sommeil, est-ce que l'alcool avant de se coucher, ça peut aider ou ça peut nuire? Est-ce que un gros repas, une grosse poutine, ça peut aider ou ça peut nuire? Moi, je me souviens que j'avais cette problématique-là. J'étais un travailleur de nuit à l'époque. Je travaillais dans les bars et à 3h30 du matin, je m'en allais manger ma grosse poutine chez Ashton. Puis après ça, je m'en allais me coucher et j'avais l'impression, puis là, je pense que le mot impression est intéressant, là. J'avais l'impression que j'allais dormir comme un bébé, là. J'avais la panse bien remplie. Est-ce que c'est positif ou négatif?
En fait, c'est le contraire. Mais là, vous avez parlé de la petite Ashton, puis moi, j'étais à Montréal, puis là, ça m'a donné bien de ça. En fait, c'est le contraire, malheureusement. Mais encore une fois, quand on est plus jeune, notre corps est capable d'en prendre un petit peu plus, puis des fois, en vieillissant, c'est plus difficile, mais on dit qu'on devrait se garder là, au moins 2 heures avant d'aller se coucher sans manger, si on veut aider notre sommeil. Parce que sinon, en fait, c'est qu'on s'endort puis notre corps est en train de digérer. T'sais? Puis ça, on ne veut pas nécessairement ça. Puis au niveau de l'alcool, si on est stressé ou si on a une tendance anxieuse, bien, l'alcool, c'est un dépresseur. Ça veut dire que le petit verre de vin là, et qui nous fait du bien, ça nous calme. Il y a des gens qui vont dire que ça les aide à s'endormir. Par contre, moi, je n'irais vraiment pas vers cette solution-là parce que ça bousille votre sommeil après. C'est-à-dire que vous allez passer moins de temps dans les stades de sommeil profond, plus de temps dans les stades de sommeil léger. Vous allez vous réveiller plus. Ça va changer votre température corporelle aussi. Et donc, c'est un peu comme se tirer dans le pied.
Oui, c'est ce que ça me fait. Je prends 2-3 verres de vin, mettons, le samedi soir, là, puis je m'en vais me coucher, je m'endors rapidement, mais je me lève à 2-3 heures du matin. Puis là, j'attends comme 45 minutes, 60 minutes avant de me rendormir. C'est épouvantable.
Parlant de nourriture, si, mettons, c'est l'inverse, je vais prendre hier dans mon quotidien comme exemple. J'ai pas eu le temps de souper, j'avais un rendez-vous, j'étais arrivée chez nous, il était rendu 8 heures le soir. Puis là, je me suis dit, alors, je mangerai pas à cette heure-là, justement, ça me tente pas de scraper mon sommeil ou peu importe. Fait que je suis allée me coucher, mais mon ventre gargouillait sur un temps. J'ai fini par être capable de m'endormir, là. Ma mère me disait qu'il dordine. Mais je me suis dit, en me couchant, crimbine, je vas-tu me réveiller cette nuit parce que j'en ai mal au cœur, tu sais? Quand t'as faim avant de dormir, t'es-tu mieux de manger ou justement qu'il dordine?
Ben en fait, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire des gros repas, ça va affecter notre sommeil, mais effectivement, si on a très faim, on se couche le ventre vide, ben ça peut affecter notre sommeil aussi. Donc, l'entre-deux, c'est peut-être à ce moment-là de prendre une collation, de se prendre un petit quelque chose qui se digère bien, qui n'est pas trop sucré, qui n'est pas finalement pas s'endormir en ayant trop trop faim.
Question d'auditeur. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'il y a une différence dans le sommeil quand tu es dans une chambre encombrée versus une chambre qui est super bien rangée?
Et je l'aime tellement cette question-là. Puis, j'ai pas d'article scientifique, là. Fait que ça, c'est vraiment mon expérience clinique, puis ce qu'on voit avec les patients. Mais faire le ménage de sa chambre, là. Puis que ça soit propre, puis l'enlever la poussière, puis c'est magnifique. Fait que
Oh.
si déjà, il y a des choses faciles qu'on peut faire par rapport à son sommeil, puis moi, je pense que de faire un bon ménage dans sa chambre, puis de se sentir bien, se sentir calme, moi, je pense que ça fait du bien. Sauf que là, comme je vous dis, j'ai pas d'article scientifique pour me backer.
J'ajoute à ça, bon, un environnement propre. Moi, en tout cas, si le ménage est bien fait chez nous, le ménage est bien fait dans ma tête aussi, là. J'ai lu un article, Mon lit, mon refuge, dans la presse, puis je trouvais ça super intéressant. Tu sais, il y a des gens qui font tout dans leur lit, puis je plaide coupable. Des fois, moi, je me lève, puis je suis trop lâche pour me lever de mon lit, je vais commencer à travailler le matin de mon lit. Je vais avoir envie d'écouter une série tranquille, je vais peut-être manger un petit quelque chose dans mon lit en même temps. Le fait de tout faire dans son lit, est-ce que ça a un impact sur le sommeil?
Ça peut. Puis la distinction, là, c'est est-ce qu'on a des problèmes de sommeil ou non? Est-ce qu'on a de la misère à s'endormir? Est-ce qu'on se réveille pendant la nuit? Est-ce qu'on se réveille trop tôt, on n'arrive pas à se rendormir? Si la réponse est oui, là, c'est mieux de garder son lit pour dormir ou pour les activités sexuelles, mais rien d'autre. Parce que dans le fond, notre cerveau, là, il associe cet endroit-là avec le fait de manger si on mange, ou de travailler, ou d'écouter la télé, ou de lire. Et donc, c'est mieux de le garder pour ça. Par contre, si on n'a pas de problème de sommeil, qu'on s'endort bien, ben là, on a un petit peu plus de latitude sur ce qu'on peut faire.
Autre question d'auditeur. On nous demande en fait pourquoi certaines personnes se rappellent davantage de leurs rêves et que d'autres les oublient.
Bonne question. Je ne sais pas si on a la réponse à cette question-là. Par contre, pour se rappeler d'un rêve, ça prend un réveil après une période de sommeil paradoxal. Hein, ça, c'est le stade de sommeil dans lequel on rêve le plus, puis que les rêves sont le plus vivides. Donc, si on se réveille après, ça se peut qu'on s'en rappelle. Et il y a des gens qui se pratiquent à s'en rappeler et qui
Oui.
peuvent un peu changer ça, le fait de ne pas se rappeler ou de se rappeler de leur rêve.
Ouais, il y avait une dame qui avait écrit un livre, c'est un livre que j'avais lu, que je trouvais franchement intéressant, puis qui mentionnait que le cerveau était fait pratiquement pour oublier ses rêves à un moment donné. Et si tu veux te souvenir des rêves, quand tu te réveilles, tu te souviens de ton rêve, tu dois l'écrire. Parce qu'en après-midi, ça se peut que tu te souviennes plus
Ah, oh, ouais, que tu
du
l'oublies.
rêve que
C'est
tu as fait la veille,
particulier.
alors qu'au matin, quand tu te lèves, tu sais exactement à quoi tu as rêvé. Fait qu'elle, c'était son petit truc comme ça, elle se le notait, là.
Autre question d'auditeur, dormir avec des animaux. Il y en a pour qui ça a l'air super rassurant, puis il y en a pour qui c'est un pain in the ass au niveau du sommeil, là.
Moi, ça l'est, là.
Ben là, un golden qui prend la moitié de ton lit, là.
Ouais, c'est ça. T'sais, le chien, les deux chats, c'est l'enfer. C'est l'enfer.
C'est du gros cas par cas, hein. Encore une fois, si on a des problèmes d'insomnie puis que l'animal nous réveille encore plus, est-ce que c'est possible justement qu'il dorme à côté? Est-ce que, mais moi, j'ai bien de la misère avec ça parce que je sais à quel point les animaux sont importants pour les gens. Donc, c'est un peu un coût-bénéfice rendu là. Est-ce qu'on accepte que justement l'animal dérange notre sommeil, tout ça, puis on est correct avec ça? Ou est-ce qu'on se dit, OK, ben là, j'ai beaucoup trop d'autres problèmes de sommeil et cette partie-là, je peux la contrôler, donc je vais essayer vraiment de dormir seule. Je pense que c'est des décisions bien personnelles.
Docteur Maude Bouchard, vous êtes à Tout le monde en parle ce matin. Donc, je vais vous poser la question qui tue. La température
Oh,
de
mon
la
Dieu.
chambre doit être cédulée à quel degré?
Très fraîche, plus fraîche que le reste de la maison. On parle autour de peut-être 19-20 degrés.
Ah ouais,
Savez-vous
moi j'étais à
pourquoi?
17 chez nous.
17.
C'est
Ah ouais.
correct. Pourquoi,
Savez-vous
hein?
pourquoi, hein?
Non.
Non.
Parce que dans notre réponse de sommeil, oui, on sécrète de la mélatonine en soirée pendant la nuit, puis ça nous aide à dormir. Notre cortisol diminue aussi, l'hormone de la vigilance, l'hormone du stress, elle diminue en soirée. Mais il n'y a pas juste ça qui diminue, il y a aussi notre température corporelle interne qui diminue pendant la nuit. Et ça, c'est important pour le sommeil, c'est important pour la qualité du sommeil. Et si notre corps n'arrive pas à faire descendre sa température corporelle, ça se peut que ça affecte notre sommeil. D'ailleurs, il y a plein de gens pendant l'été qui se demandent, voyons, comment ça se fait que mon sommeil, j'arrête pas de me réveiller. Puis qui est moins bon. Puis des fois, ça peut être la chaleur. Donc, ça peut être bien d'être dans un environnement qui est plus frais pour aider le corps à faire ça.
Ouais. Là, on voit ça de moins en moins, Audrey, mais quand j'étais jeune, en ville, il y a des gens qui dormaient, même l'hiver, avec la fenêtre ouverte.
Nous autres, on l'ouvre de temps en temps.
Même
un peu
l'hiver?
d'air frais, puis
Ouais.
oh, oui. Moi, j'ai des doudous, là, tu sais, qui sont full douces, là, pas des doudous, des draps. Comment t'appelles ça? T'sais? Moi, j'appelle ça des doudous en flanellette, mais je pense pas que c'est le bon tissu. En tout cas, c'est vraiment doux. Puis c'est chaud. Puis je veux dire, je suis bien, je suis heureuse. Tant que ma tête est frette, là, moi, le reste se passe bien, là.
Ouais.
Et moi, le monde qui met leur chambre à 25 degrés, ça m'angoisse.
Mais tu ouvres la fenêtre même l'hiver?
Oui, ça, des fois, avant de dormir, on va ouvrir la fenêtre bien grand, grosse, air frais, il fait comme 15 pendant un bout. Ouais,
pour aérer,
on la
pour faire
referme dans la
l'amour.
nuit, là.
Ouais.
Ouais,
Faire l'amour.
ça, c'est privé.
Aussi. Mais c'est ça. Mais l'hiver, on voyait ça. Les gens qui dormaient toute la nuit avec la fenêtre ouverte. Puis ça a l'air que ça aère, mais en plus, comme le doc dit, quand c'est frais. Ça donne un meilleur sommeil.
Des questions d'auditeurs qui rentrent que je trouve vraiment intéressantes. On parle de... En fait, je parlais de mes draps, là. Je vais terminer avec ça de mon côté. Y a-tu... Tu sais, des fois, on dit... Bon, il y a des gens qui sont... On est pauvres, OK, là, en majorité, là. Au Québec, en ce moment, on a de la misère avec le portefeuille. On met pas naturellement de l'argent sur un bon matelas ou des bons oreillers, des bonnes doudous, ces affaires-là. Est-ce que c'est nécessaire pour un bon sommeil d'investir là-dedans? Il y a des gens qui nous demandent, justement, y a-tu des oreillers mieux que d'autres, entre autres? Autre. Je serais curieuse de savoir ce que tu en penses par rapport à ça. Puis le changement de drap aussi, c'est une vraie affaire ou pas une vraie affaire?
Je pense que l'idée, là, c'est d'être confortable. Puis je pense qu'être confortable, ça peut être à plein de différents prix selon notre budget. Un matelas, des oreillers qui respire aussi, puis le fait de laver ses draps, de laver que ce soit propre, que ça sente bon, qu'on fasse justement le ménage de la chambre. Bref, d'être bien dans notre environnement. C'est sûr que si on a le même matelas depuis 20 ans, puis qu'on sait que ça affecte notre sommeil, qu'il nous donne mal au dos, ben ça peut avoir un impact, puis pourquoi pas le changer si on peut se le permettre, mais essayer d'être confortable. Puis des fois, ben être confortable, ça veut dire différentes choses, hein?
C'est vrai.
Peu importe le budget.
Maude, je vais terminer avec ça pour vrai, là, OK? Parce qu'il y a une question d'éditeur qui est rentrée, puis ça a rapport avec la thérapie dont tu nous as tant parlé. L'éditeur dit la thérapie peut aider à avoir un meilleur sommeil, mais est-ce que ça peut aussi aider pour l'hypersomnie?
Bonne question. Donc là, l'hypersomnie, on est dans autre chose. On est dans les gens qui dorment vraiment trop, en fait, ou plus. Et il faut un peu venir trouver la cause. Est-ce que c'est justement un symptôme de dépression? Est-ce que c'est d'autres types de troubles de sommeil qui amènent de l'hypersomnie? Est-ce qu'il y a de l'apnée du sommeil en arrière de ça? Et donc, on dort vraiment beaucoup, mais on est toujours fatigué. C'est pas récupérateur. Donc, tout dépendamment, ça se peut que ce soit médical. Donc là, à ce moment-là, ça se peut qu'on ait besoin de le traiter au niveau médical et non via de la TCC, de la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie.
Docteur Maude Bouchard, neuropsychologue, spécialiste du sommeil, c'est toujours un plaisir de vous parler. Je sais que vous avez une grosse journée, donc je dois vous laisser partir, mais peut-être qu'il y aura une quatrième fois, qui sait?
Ben là, moi, l'hypersomnie, ça m'intéresse, fait que clairement, on a d'autres sujets à traiter.
Si vous nous appréciez, ben sachez que c'est réciproque de notre côté.
On ouvre des portes à chaque fois. Ça, c'est
un
plaisir. Merci pour l'invitation.
C'est le plaisir est pour nous. Merci,
Salut.
Doc. Bye-bye. L'excellente Doc Maude Bouchard, neuropsychologue, qui était avec nous pendant toute l'émission. Est-ce intéressante, elle?
Ah, mon Dieu, je l'adore.
Puis je viens de comprendre bien les affaires. T'sais. Puis là, les filles, il va falloir se parler. C'est à toi que je parle, toi puis ta gang.
C'est à moi puis ma gang. Okay, ouais. J'écoute avec ma gang.
Quand vous avez frette la nuit, là,
ouais.
Bon, vous collez sur nous autres.
Oui, c'est pourquoi on a frette la nuit.
Mais
là?
Si à ça... T'ajoutes le chien,
ouais.
Puis le chat.
Ouais.
Qu'est-ce qui arrive avec nous autres?
Ben vous êtes en burrito dans votre doudou.
On a ça, mais la chaleur. T'sais, moi, là, j'ai deux chats, pas de poêle. Là. Mes enfants voulaient des chats. Moi, je déteste le poêle. Fait qu'on a fait un compromis.
Mais pourquoi tu les laisses
dormir
dans
le lit? Je vais prendre des chats, pas de poêle. Parce que sinon, ils miaulent. Ils miaulent pour rentrer
mais
dans la
chambre.
Mais
c'est toi qui les as élevés, ces chats-là?
Oui, je sais, mais c'est pas comme
mais
un
t'avais
chien.
T'avais juste à faire ta job?
Pas comme donne la patte. Là. Fait que, bref, je me ramasse avec la blonde qui a trop frette qui se colle sur moi. Je me ramasse avec les deux chats, pas de poêle qui se collent sur moi. Puis le chien,